RTL L'Équipe, le Café des Sports, Emmanuel Barthe.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RTL L'Équipe. J'accueille aujourd'hui une des navigatrices les plus populaires. Tout le monde se souvient de sa traversée de l'Atlantique à la rame. Dernière escapade en date, la mer des Caraïbes, pour un docu à découvrir demain à 20h35 sur France 2. Maud Fontenoy est l'invité du Café des Sports, le face-à-face. À venir dans quelques secondes, au programme, le Quintet comme tous les jours à partir de 13h50 et les débats du Café à 14h. Retour évidemment sur l'exploit de Rafa Nadal hier à Roland-Garros. Écoutez bien, c'est son 6e titre sur la terre battue parisienne, 10e victoire en Grand Chelem. L'Espagnol affole les compteurs. La question est simple, Rafael Nadal est-il le plus grand joueur de tennis de tous les temps? L'actu toujours. Et le football, cette fois-ci, Ukraine-France, coup d'envoi 21h, match à suivre bien sûr sur RTL et sur le www.rtl-l'équipe.fr. Les dernières infos à venir, sachez tout de même qu'après le nul en Biélorussie vendredi, Laurent Blanc a décidé de modifier son 11 de départ. Seul rescapé, le défenseur central Mamadou Sakho. C'est bientôt l'heure des vacances pour les Bleus, des vacances bien méritées, ils sont cramés. Ce sont les propos du sélectionneur Laurent Blanc. C'est le Café des Sports, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
Débattez vous aussi avec les journalistes de RTL L'Équipe via le mur Facebook RTL L'Équipe ou par mail à contact@rtl-l'équipe.fr.
Maud Fontenoy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. On va revenir sur votre parcours, bien sûr, dans la première partie de cette émission. Et puis, on va ouvrir les débats à partir de 14h. Votre parcours, je le disais, et tout particulièrement, bien sûr, ce docu diffusé demain sur France Télévisions, Taïa Cap sur les Caraïbes, où des caméras vous ont suivi pendant 3 semaines. Alors, évidemment, j'ai visionné le DVD. Je ne vous cache pas qu'au début, je me suis dit, bon, allez, encore un docu consacré.
Oh non, pas à moi.
Ah oui, c'est vrai, consacré à la sauvegarde des mers. Et finalement, je vous le dis franchement, j'ai été emballé. Alors, avant de revenir, bien sûr, plus en détail sur le contenu, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce docu.
Et nos auditeurs savent combien vous êtes difficile en matière de documentaire environnement.
Non, franchement, j'ai été emballé. Mais alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce docu et vos motivations, bien sûr.
Oui, justement, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas un simple docu, c'est presque un film fiction. Enfin, c'est un docu fiction. On oublie très très vite la caméra. Bien sûr, on part avec moi, ça c'est certain, sur mon voilier, le Taïa, le voilier de mon tour du monde de 26 mètres, donc un bateau de course, et on part à la rencontre de gens incroyables, donc de personnes qui vont passer leur temps et leur vie à sauvegarder le Grand Bleu et à nous expliquer combien préserver l'environnement, préserver les océans, c'est avant tout assurer la survie des humains, la survie de chacun d'entre nous. Et finalement, c'est un film qu'on a voulu très enthousiasmant, très encourageant, très dynamique. C'est pas un discours moralisateur ni voilà, on n'a pas envie de se pendre quand on a regardé le film. On a plutôt envie d'agir, soit aussi soi-même. On a envie de partir, voyager sûrement aussi. Et puis on a envie, voilà, peut-être d'un autre numéro, je l'espère en tous les cas.
Et c'est bien rythmé en tout cas. C'est vrai qu'on a, on s'ennuie pas, ça c'est sûr. Il y a pas de temps mort. On fait des belles rencontres. Vous l'avez dit également. Et puis on se rend compte finalement que tout est lié.
C'est exactement ce qu'on a voulu démontrer, c'est-à-dire que c'était pas seulement aller voir les baleines et les dauphins, bien sûr on en voit et Dieu sait que les baleines sont vraiment majestueuses, on va à la rencontre des requins et des animaux qui peuplent les océans, mais ce qu'on voulait démontrer c'était que sauver ce grand bleu c'était d'abord sauver les hommes. Tout est lié parce qu'il y a une interdépendance entre les espèces qui font que si on enlève un animal, et même l'animal qui nous fait le plus peur, le requin, eh bien c'est toute la vie des océans qui est perturbée et du coup la survie des humains, puisqu'on rappelle tout au long de ce film combien les océans assurent la survie des hommes tous les jours, alors parce qu'ils sont le poumon de l'humanité, parce qu'ils sont la marmite aussi de chacun d'entre nous, puisqu'on mange beaucoup de poissons, 3 milliards de personnes qui mangent quotidiennement que grâce aux océans. Et puis c'est les énergies de demain, c'est aussi la pharmacie, des anti-inflammatoires, des anti-cancers qui viennent des océans. Donc c'est pour tout ça qu'en fait qu'il faut préserver le Grand Bleu. Et aller à la rencontre de ces personnages, c'est un petit peu humaniser ce Grand Bleu. Pour beaucoup, l'océan c'est gigantesque, ça c'est vrai, c'est les 3/4 du globe, mais c'est l'endroit où on passe ses vacances en juillet, en août c'est pas plus. Et là d'un seul coup, l'océan va être humanisé par ces personnages qui sont à la fois incroyable, parce que c'est vrai que c'est des gens qui nous font partager leur passion, et à la fois ordinaire, parce que c'est des gens comme vous et moi, qui tout simplement, eux, ont compris ce lien entre les océans et les hommes, et nous le font partager de façon très, très émouvante.
Oui, et on parle de partage, pour le coup, la première séquence, avec cet homme qui relâche sa tortue à la mer, ça c'est un moment fort.
Oui, c'est vrai que que maman a regardé le film, elle a pleuré. Et non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments pleins d'émotions. Le réalisateur de ce film est le réalisateur de Rendez-vous en Terre Inconnue. Donc, on imagine bien ce type de caméra très proche, très dans l'émotion, très dans la rencontre humaine. Et là, c'est Horton qui consacre sa vie à la préservation des tortues, puisque les tortues nettoient le corail. Ce corail qui ensuite va protéger des millions de personnes, va nourrir près de 30 millions d'humains à travers le globe. Et là, pour nous, il va relâcher une des tortues dont il s'occupe depuis 12 ans, à qui il n'a pas donné de nom pour être sûr de ne pas trop s'attacher. Et on se sent pourtant très ému, limite à verser une larme quand il revoit cette tortue qu'il ne reverra plus, qui repart rejoindre l'océan. C'est un moment très intense qui nous fait comprendre combien ce sont des petits gestes, avant tout, qui peuvent changer la donne. Comme on traverse un océan coup de rame après coup de rame, et bien là, c'est ces acteurs qui, chaque jour de leur vie, font changer la donne.
Mais là, on est sur le monde de la mer. C'est le cas également pour nous. Nous, on est à terre, ok, mais c'est vrai que moi, je constate, comme tout le monde, cette immensité, l'incroyable problème qui est face à nous. Et on a le sentiment d'être vraiment, je vais reprendre une expression, mais une goutte d'eau. Est-ce qu'on a vraiment un rôle à jouer dans cette lutte écologique au quotidien ?
Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, et on sait, l'actualité est dense par beaucoup de choses. On est chacun un peu embourbé souvent dans nos soucis, dans nos problèmes. La vie sur Terre n'est pas simple forcément pour tout le monde. Alors on se dit que le problème environnemental,
c'est un problème
de vous
couper,
d'être trop loin.
Parce que le docu est formidable, c'est une carte postale formidable et bien au-delà. Mais c'est vrai que dans le quotidien, parfois, c'est quand même un peu plus compliqué.
Alors, on va revenir sur vraiment qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien. Mais surtout, ce documentaire, il est plein d'émotions, il est plein de bonheur, et c'est vrai. Parce que pour moi, c'est ma façon de penser, c'est vrai que moi, j'ai passé ma vie sur l'eau, donc je connais bien les océans. Et c'est surtout, ce qui me fait aimer les océans, c'est l'émotion qui naît quand je suis près de l'eau. Et là, dans ce film, j'ai voulu faire naître cette émotion auprès du grand public et faire comprendre à ceux qui le voyaient combien on avait un lien intrinsèque avec ce grand bleu. Et il y a différentes façons de faire passer le message. On peut avoir un discours alarmiste, on peut avoir un discours politique, on peut travailler sur le terrain, on peut aussi faire passer des belles images. Alors vous le dites, c'est vrai, c'est un discours positif, c'est un discours plein de rêves, plein de sourires, plein de gens qui trouvent du bonheur.
Mais ça fait du bien aussi.
Mais ça fait du bien parce que dans le milieu médiatique dans lequel on vit, dans la vie, encore une fois, pas toujours simple de chacun, et ben ça nous donne du bonheur. Et on se dit, Et même à moi, je peux vous le dire, à moi, ça m'a donné du plaisir et ça m'a surtout donné envie de continuer le combat. C'est-à-dire que de voir qu'aux quatre coins du monde, il y avait des gens comme moi qui consacraient leur vie à préserver les océans et notre planète, je me suis dit, finalement, je ne suis pas toute seule. Et j'espère que ça donnera envie à chacun d'entre nous de faire des petits gestes parce qu'encore une fois, bien sûr que ça paraît dérisoire, mais ça ne l'est pas. Là, on est les rencontrer, ce ne sont que des humains tels que nous. Et ce sont des gestes les uns après les autres, c'est-à-dire d'essayer de limiter ces déchets, c'est-à-dire d'essayer de choisir des produits biodégradables ou en tous les cas des produits bio qui ne vont pas abîmer les sols, les nappes phréatiques. Ce sont, quand on est sur une plage, d'essayer de respecter les sentiers côtiers, d'essayer de ne pas ramasser de coquillages ni de bouts de corail, de ne pas abîmer avec ses palmes les récifs. Ce sont des choses très simples finalement à mettre en place, qu'on soit près ou loin des océans.
L'écologie est presque devenue un phénomène de mode. Ça se vend assez facilement, un docu comme ça, quand on va voir les chaînes ou les partenaires.
Alors, je vais vous contredire, mais je ne pense pas du tout que ce soit un phénomène de mode. Je pense que l'écologie a eu beaucoup de difficultés à trouver sa place dans le milieu médiatique. C'était quelque chose qui n'était pas du tout glamour.
On en parle de plus en plus quand même.
Heureusement, on en parle de plus en plus. C'est vrai qu'on dit souvent Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, ça fait une paire d'années qu'il a commencé ses émissions et qui n'ont pas franchement marché des débuts. Il a trouvé sa place. Aujourd'hui, l'écologie, elle est au centre de la politique, c'est vrai. Pourquoi déjà elle prend plus de place ? C'est pas forcément parce que c'est un phénomène de mode. Elle prend de plus en plus de place parce qu'aujourd'hui, les scientifiques sont de plus en plus alarmiste. C'est-à-dire que quand on discute avec un climatologue de nos renommées, qui est Jean Jouzel, qui est vice-président du GIEC, quand il nous dit qu'un des principaux problèmes aujourd'hui, c'est la montée des eaux, c'est-à-dire que si on continue la fonte des glaces, la dilatation des océans, ça va évidemment obliger à migrer des millions de personnes, c'est évidemment pour ça qu'on en parle de plus en plus. Et puis, je pense qu'on en parle de plus en plus parce que le grand public a envie de savoir et qu'on comprend bien que c'est peut-être une question de santé publique aujourd'hui. Parce que quand on pollue nos océans, 6 milliards de tonnes de déchets qui sont rejetés dans la mer chaque année, c'est des polluants qui se retrouvent dans la chair des animaux, et notamment des poissons, que l'on va nous manger.
Ça, vous le constatez vraiment quand vous prenez votre bateau, vous allez sur les mers, les océans?
Évidemment que c'est parce que je suis partie en mer quand j'avais à peine une semaine, que c'est parce que j'ai habité 15 ans sur un voilier à naviguer, que j'ai pu voir les océans tiraient le signal d'alarme, c'est-à-dire les marées noires, évidemment les marées vertes, la pollution qui vient à 80% de la Terre, hein, c'est-à-dire que c'est nous qui rejetons ces polluants dans les océans, et puis à la fois la pêche industrialisée qui laisse plus de place aux poissons à se reproduire, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un nouveau système à créer, mais que c'est aussi beaucoup d'enthousiasme, c'est pas forcément anxiogène, ça peut être aussi quelque chose qui nous laisse la place à inventer le monde de demain.
Et il y a ce formidable pêcheur, puisque vous me tendez une perche dans le DVD justement de Bekwe, qui vous explique que oui, c'est vrai, il pêche la baleine, mais on comprend également ses raisons derrière, sont des raisons économiques, et puis il y a la tradition également qui est très importante.
Alors c'est vrai que ce sont des rencontres qui peuvent appuyer sur certains de nos contradictions, certains de nos paradoxes. C'est vrai que de voir cette femme à la fois l'esthésuti qui est menacée de mort par son combat contre la pêche ou à la baleine, parce que ça représente des mannes financières très importantes. Et de l'autre côté, de voir ce pêcheur Austin qui pêche la baleine parce qu'on lui donne le droit d'en pêcher quelques-unes par tradition, pour nourrir son village, parce qu'il l'a toujours fait.
Trois baleines par an. Hein,
trois baleines par an, évidemment, c'est peu. Et à la fois qu'il se dit, bon, écoutez, moi, c'est vrai que si j'avais un bateau, je ferais plutôt du whale-watching, de l'observation des baleines, parce que je gagnerais peut-être mieux ma vie et que ça serait plus chouette. Donc, on comprend cette évolution aussi qui est longue, l'évolution de la société, des traditions. Et à la fois, le paradoxe qu'est chacun d'entre nous, c'est-à-dire on aime les baleines, mais à la fois, on veut quand même gagner notre pain quotidien.
Et ils n'ont pas le choix, surtout.
Eux, ils ont pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'adaptent à une autre mode. Des gens comme moi ou comme cette dame, les Sissuti, les font évoluer. Elles se disent que finalement, il y a peut-être d'autres façons aussi de gagner sa vie. Ou peut-être que nous aussi, dans notre vie au quotidien, quand on peut faire le choix d'aller à pied plutôt que de prendre notre voiture, de choisir un produit bio, quitte à en acheter un peu moins. Vous voyez, c'est un choix au quotidien.
Parce que là, on s'écarte un petit peu du sport, mais juste sur le vrai problème des baleines, c'est le Japon, le vrai problème des baleines.
Bah, disons que c'est un long combat, c'est un petit peu un gain aux voix, c'est-à-dire qu'il y a la Commission baleinière internationale où là, chaque pays a une voix et où le Japon, on peut le dire entre guillemets, fait un peu du lobbyisme en essayant d'acheter des voix aux pays de la Caraïbe pour obtenir plus de puissance à cette commission, continuer la pêche à la baleine, mais c'est surtout avec ces voix pouvoir continuer la pêche à d'autres poissons tels que le thon rouge qui, on le sait, est prisé au Japon. Ouais.
Vous n'êtes pas découragé parfois justement quand on constate ce genre de situation, on se dit bon, finalement c'est vrai que c'est bien, ça permet peut-être de faire avancer un petit peu et de faire avancer les consciences, faire évoluer les consciences, mais c'est difficile de changer de monde quand même. Hein.
Non, je pense qu'on pouvait dire quand je suis partie traverser à la rame que ça paraissait difficile. Et pourtant, c'était faisable, encore une fois, étape après étape. Et là, ce film, pour moi, c'est plutôt un film qui dit, bah ouais, finalement, c'est jouable. Parce qu'on voit ces gens qui sont comme vous et moi et qui arrivent à faire changer les consciences autour d'eux, qui arrivent à mener leur combat à bien et qui font changer la donne, chacun à son niveau. Donc, je crois plutôt que ça valorise l'être humain dans sa capacité de changer.
D'accord. L'écologie qui arrive aujourd'hui au centre du débat politique, ce n'est pas un échec, finalement, puisqu'on voit que, voilà, vous citiez tout à l'heure Nicolas Hulot, qui, lui, s'engage, peut-être parce qu'il se rend compte également que il faut davantage de moyens pour que le message soit bien reçu.
Alors, il y a encore une fois plein de façons d'agir. Il y a une façon associative, telle que je le fais moi en France avec ma fondation, en travaillant sur l'éducation, en travaillant dans tout le milieu scolaire, en adressant des programmes éducatifs chez tous les enfants pour éduquer. Donc, je pense que c'est notre responsabilité aussi. Il y a la façon de le faire par un documentaire sur France 2, parce que c'est une très large audience et que ça peut sensibiliser les consciences de façon positive.
Oh, parce qu'il y a une vraie démarche politique également.
Il y a une démarche toujours quand on veut faire un conseil. Et puis, bien sûr, il y a Nicolas Hulot qui se lance en politique et c'est très courageux de sa part parce que c'est un domaine difficile et compliqué. Et Dieu sait que les coups sont nombreux. Maintenant, la politique évolue aussi. Hein. Le Grenelle de l'environnement, le Grenelle de la mer, c'était il n'y a pas si longtemps. On en parle de plus en plus. Ça va probablement trop lentement pour les scientifiques, mais ça demande toujours l'évolution des sociétés. Les mutations sont toujours longues.
Ouais. On va déplacer un petit peu le curseur et on va revenir au sport. Revenons à vos traversées traversées de l'Atlantique. On se souvient tous de ces images, évidemment. À la rame, ça paraît complètement fou. Qu'est-ce qui vous pousse comme ça à relever de tels défis?
C'est vrai que ça peut paraître surprenant pour certains. Moi, c'était par amour de la mer déjà, parce que je suis partie en mer quand j'étais toute jeune, parce que j'aime les océans, parce que je voulais être à la rame, parce que je voulais être très proche d'eux et démontrer que le goût de l'effort, ça voulait dire quelque chose et qu'on partait, que c'était excitant aussi parce que c'était pas gagné d'avance, de mettre toute son intelligence, toutes ces astuces pour essayer d'y arriver et continuer. Enfin, je trouve que c'était valorisant pour l'être humain et en tous les cas pour tous les enfants, les milliers d'enfants qui suivaient mes challenges, notamment Megaman Cité auquel je pense souvent, Megaman de la Pierre Collinet à Meaux ou ailleurs, qui ont trouvé de l'énergie, de la force aussi pour réaliser leurs propres projets, leurs propres rêves, se dire que c'était accessible à tous, même quand on est une jeune femme comme moi avec des petits bras.
Et qu'est-ce qu'on apprend justement sur l'être humain? Qu'est-ce qu'on apprend sur soi-même quand on traverse une telle épreuve?
Déjà qu'on est bien au cœur de la nature. C'est-à-dire que, et c'est ce que montre ce film aussi, c'est-à-dire qu'il y a un bien-être à être au cœur de la nature. On a besoin de la nature, ne l'oublions pas. On se crée une société de consommation qui nous apporte du plaisir aussi, mais on a besoin de se retrouver au cœur de la nature, on a besoin, il y a un bien-être incroyable de cette harmonie-là. Et c'est vrai que moi, même si je souffrais pendant mes traversées, parce que ramer 8 à 10 heures par jour, parce que d'être seule pendant 4 à 5 mois, parce que de plus avoir d'eau, parce que plus avoir de nourriture, c'est des souffrances, mais c'est aussi des moments de jouissance, d'y arriver, d'être là où on a rêvé d'être, de s'accompagner par sa simple volonté, de faire passer un message. Je pense que c'est de la souffrance pour réussir, mais après, quel bonheur quand je pense à Raphaël Nadal qui doit en avoir bavé pour en arriver là, parce que Dieu sait qu'on n'arrive pas là par hasard et on a des capacités, certainement, je pense qu'on a surtout un mental, mais qu'après, c'est un bonheur immense. Donc finalement, on accepte les souffrances pour la jouissance ultime.
Oui, on le fait pour soi-même également. On se sent mieux quand on fait, quand on donne l'exemple, comme ça, quand on a le sentiment de faire avancer un petit peu, pas changer le monde, mais je le disais, faire évoluer les conscience.
Je crois qu'on se sent bien quand on est égal à soi-même. Et c'est pas simple, déjà, de savoir qui on est. Alors, il y en a qui partent en psychothérapie pendant des années, d'autres qui partent dans des monastères. Moi, je suis partie 5 mois en mer pour savoir qui j'étais et ce que je voulais dans la vie.
Et vous êtes qui, alors, Maud Fontenay, du coup ?
Non, mais je suis quelqu'un tout à fait normal qui avait besoin de prouver que c'était possible, qui avait besoin de se prouver à elle-même qu'elle pouvait y aller et qu'elle en avait la capacité. Et je pense que ça m'a mis bien à l'aise dans mes baskets pour continuer le combat et me dire que ce combat pour la préservation du Grand Belon, notamment maintenant, il est accessible. Il est accessible à chacun d'entre nous. Donc, j'en suis revenue bien dans ma peau, c'est sûr. L'envie de repartir, certainement, aujourd'hui différemment, puisque je repars avec mon bateau pour faire naviguer des enfants en rémission de cancer, des enfants d'école, et que je pars plus seule, du coup. C'est peut-être ça la différence.
Allez, taille à cap sur les Caraïbes. Notre invité aujourd'hui, Maud Fontenay, on va revenir évidemment sur ce documentaire diffusé, on le rappelle, demain sur France 2 à 20h35. Restez à mes côtés, on fait une courte pause. On se retrouve juste derrière. On va accueillir nos spécialistes des courses hippiques. 13h passées de 47 minutes. Vous êtes bien sur le www.rtl-l'équipe.fr.
Débattez vous aussi avec les journalistes de RTL L'Équipe via le mur Facebook RTL L'Équipe ou par mail à contact@rtl-l'équipe.fr.
Allez, on reprend la discussion, on refait les courses avec Maud Fontenay, on refait le quintet, c'est tout à fait exceptionnel. Elle trouvait ça injuste que finalement le cavalier qui a occupé la première position tout au long de la course termine seulement deuxième. Mais ça peut être le cas également lors d'une régate,
c'est
d'une course au large.
C'est pour ça que je pars toujours toute seule.
Voilà, vous avez
personne dit. Ne peut me piquer la ligne d'arrivée.
C'est beaucoup plus simple. Taïa, cap sur les Caraïbes, docu à retrouver demain, bien sûr, 20h35 sur France 2. On va revenir, bien sûr, sur le contenu de ce documentaire. Un mot tout de même sur les rencontres. Parce que vraiment, moi, j'ai envie de retenir ça, parce que ça m'a plu et je trouve que le casting est super bien fait. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de boulot en amont, bien sûr. Il y a des rencontres formidables. Et surtout, ce vieux monsieur qui s'occupe des requins à la fin du documentaire, c'est Monsieur King, je crois.
Voilà.
Hein, c'est ça ?
Docteur Kruger.
Ouais, c'est ça. Alors,
Mister King.
Racontez-nous un petit peu son histoire et cet amour incroyable pour les requins.
Oui, c'est certain que c'est émouvant parce qu'il a 73 ans.
Oui.
Donc, et on le voit plonger à un moment donné dans l'eau avec ses requins. Limite, il va plonger habillé. Enfin, c'est ses animaux domestiques pour lui. Donc, évidemment, que quand je lui raconte que j'ai peur des requins parce que quand je plonge en plein milieu de l'océan pour aller nettoyer la coque de mon bateau à rames, j'ai peur de me faire bouffer la jambe par un requin. Lui, ça le fait marrer. Et donc, évidemment, que pour lui, la seule façon d'éradiquer ma peur, c'est d'y aller. Et donc, il trouve rien de mieux que de me forcer, enfin que de me faire plonger avec un requin-tigre, donc ouais. 4 mètres de long, 800 kilos, un monstre des océans qu'on reconnaît avec ses rayures un petit peu sur le dos.
Et qui a faim.
Qui a faim, évidemment, puisqu'il l'attire avec de la nourriture. Et après, il me dit, bon, ben voilà, et on est en pleine nuit, et il me fait plonger en pleine nuit avec le requin.
Alors, on va pas trahir le secret, mais là, franchement, je me dis, vous n'êtes pas très sérieuse. Parce que sauter à l'eau,
quand
on voit la
taille... Mais bon, je suis quand même à l'antenne, donc a priori, je suis revenue quand même.
C'est vrai, on est d'accord, mais il y a quand même un risque. Parce que vous le dites dans le docu, il y a 5 attaques par an mortelles de requins.
C'est très peu.
Oui, c'est très peu, d'accord.
Non,
mais
c'est
si sur les 5, il y a Maud Fontenoy, vous n'êtes pas là pour nous raconter cette belle histoire.
Non, mais c'est vrai que c'est ce que je raconte dans le film, c'est-à-dire qu'on a peur du requin et c'est très dommage parce que les dents de la mer lui ont fait vraiment beaucoup, enfin, lui ont porté préjudice. Le requin, finalement, ne fait que 5 attaques mortelles par erreur à chaque fois. Dans la nuit, lorsqu'ils confondent ça avec des tortues ou qui, bon, voilà, il y a plus de morts avec les méduses ou avec parfois même les dauphins qui veulent protéger leurs petits et qui attaquent les hommes pour se défendre que ces bêtes-là qui nous font malheureusement peur. Alors maintenant, voilà, moi je suis toujours aussi inquiète. Bon, mais on avait.
Oui, parce que là, vous jouez un peu les gros bras. Voilà. Mais quand on regarde le documentaire, au moment de plonger dans l'eau, c'est pas la même histoire. Parce que là, on voit vraiment sur votre visage que ouais, vous flippez à mort, quoi.
Ouais, non, c'est vrai que c'est pas très rassurant. Déjà, de plonger en pleine nuit, pour ceux qui connaissent, d'aller en bouteille au fin fond de l'eau en pleine nuit, c'est déjà pas très agréable. Et puis surtout, ce requin. Et puis ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on est sous l'eau avec des énormes lampes torches pour éclairer le requin, voir où il est. Et qu'à un moment donné, la lampe torche tombe en panne. Ah. Et qu'on est juste à 15-20 mètres de profondeur dans la nuit noire. Et sans lumière du tout, et le requin qui tourne autour. Et je me demande si mon coéquipier le fait exprès, donc je lui broie le bras
oui.
En lui demandant « Mais tu es fou, traque d'éteindre la lampe. » Et en fait, la lampe n'avait plus de pile.
Et à plusieurs reprises, on vous voit également lui dire « On remonte,
voilà,
parce que
ça.
La nuit tombe. » En tout cas, vraiment, je conseille à tous nos auditeurs de regarder ce documentaire demain sur France 2 à 20h35. On le rappelle, il y a de l'émotion, il y a des belles rencontres. Et puis on s'évade un petit peu, c'est vrai, c'est l'aspect écologique, mais voilà, traité de manière positive. Et ça c'est tout à fait intéressant, parce qu'au début, je me suis dit « Ça me gonfle. » Encore un DVD sur l'écologie. Et puis finalement, je l'ai dit, j'ai été emballé. Vraiment, je donne rendez-vous à tous nos auditeurs. Il est 14h passé de 2 minutes. On va ouvrir les débats. Vous allez rester bien sûr à nos côtés. Restez connectés sur le www.rtl-l'équipe.fr.
Sur RTL L'Équipe, le café des sports jusqu'à 14h30.
Allez, 14h passé de 2 minutes. Notre invité, Maud Fontenoy, ouverture des débats. On va se faire un petit peu de la place. Hein. Si, Sylvain, il va venir. Bien sûr, allez, on va s'organiser. C'est du direct, vous inquiétez pas. Maud Fontenoy est notre invité aujourd'hui dans ce Café des Sports. Cyprien Signy est avec nous. Bonjour Cyprien.
Salut à tous.
Jean-Michel Rascol également pour RTL. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Et Sylvain Charlet qui va nous accompagner également. Salut Sylvain.
Salut.
On va parler football, mais dans un premier temps, on va parler tennis. Je sais que vous adorez le football, Maud Fontenoy. Hein,
oh, j'en blague.
Le tennis un petit peu plus peut-être. Vous avez suivi hier la finale entre Rafael Nadal, on le rappelle, et Roger Federer.
Oui, c'est Rafael Nadal qui a gagné.
Ouais, bien joué. Elle a suivi formidablement bien suivi.
Allez, on va. Sublime, un très beau match.
Ah
magnifique
oui,
en
mais,
plus.
En fait, il suffit de savoir que Rafa est en finale pour savoir qu'il a gagné. Parce que
voilà,
c'est comme l'Allemagne en foot il y a quelques années. Quand Rafa est en finale à Roland-Garros, c'est Rafa qui gagne.
Et c'est une tragédie, parce que c'est toujours le même scénario finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Cyprien Signy.
Non, je répète souvent dans cette émission que j'aime le sport quand il y a de la rivalité. Et le set pris par Federer hier et la physionomie du match a fait que c'était quand même indécis. Pendant un moment, on a cru que Federer pouvait le faire. Enfin, je ne suis pas spécialiste tennis, mais en tout cas, moi, j'y ai cru. Alors, c'est peut-être le cœur qui a parlé hein, quand j'ai regardé le match. Mais... Et du coup, il y avait une vraie rivalité et c'était bien.
Ah, il s'écroule quand même sur le dernier set.
Il s'écroule à la fin, mais je veux dire, tout le long.
Il mène 4-2 dans le premier, il a une balle même de 7 dans la première manche.
Il a une balle de 7 à 5-2.
Et on croit que c'est fini.
Il peut gagner la première manche, il gagne la troisième. On peut imaginer que ce match puisse aller en 5-7.
C'est parce qu'il gagne la troisième, justement. C'est formidable.
Non, mais il a un ascendant psychologique, Nadal, sur Federer, assez incroyable. C'est Mats Wilander qui le dit aujourd'hui. Federer face à Nadal, il n'arrive pas à le faire trembler, il n'arrive pas à le faire douter. Il prenait l'exemple du match face à Söderling. Quand Söderling sort Nadal, c'est le seul qui a battu Nadal sur terre à Roland. Et il te dit en fait que, à ce moment-là, dès les premiers jeux, Nadal, dans ses yeux, il cherche son oncle, il est dans le doute. Et face à Federer, Nadal, jamais il ne doute. Même dans le premier set, à 5-2, il va se faire soigner. Là, il a un problème au pied, il a un problème d'ampoule.
Ouais.
Et le revient, et derrière, il enchaîne les jeux, tu te dis... Mais
c'est vrai qu'on a
incroyable.
Le sentiment que c'est à partir de ce moment-là que Rafa rentre dans sa finale.
Et oui,
mais c'est ce que tu m'as dit.
C'est à cause de l'ampoule.
Il gagne 11 jeux de suite après.
Ah oui, parce qu'il a changé le strap qu'il avait à l'ampoule. Non, mais à un moment donné, quand moi, je pense qu'il va gagner en 3-7. Quand Nadal gagne le premier set, je me dis, ça y est, c'est fini, il est revenu, il a retourné la situation. Et donc, je me dis, bon, bah, le tennis, toujours pareil sur Nadal et tout. Et là, dans le troisième, il y a Federer qui gagne. Et là, je me dis, ça y est, c'est reparti.
Surtout qu'il est mené, ouais, surtout qu'il est mené.
Ça m'a permis, ça m'a permis de vibrer pendant la finale. Alors si Nadal gagne en 3-7 à chaque fois, ça a aucun intérêt. Le sport tient par sa rivalité.
Tout à l'heure, on parlait d'émotion. On peut imaginer vraiment l'émotion pour un champion remporté. Bon, Roland Garros, qui est un monument, mais tout jeune, il a 25 ans à peine. Il a 25 ans, Rafael Nadal. Il remporte déjà son 6e titre à Roland Garros.
Non, non, c'est vrai que j'imagine combien il doit être heureux, parce que combien ça doit être de la souffrance et de la préparation et de l'entraînement et des sacrifices pour en arriver là. Et puis quand on parlait du regard de Nadal, et c'est vrai de se dire que la puissance d'énergie mentale qu'il faut pour essayer déjà presque de faire plier son adversaire sans la raquette, quoi. Et c'est ça qui finalement, je pense, fait réussir les grands sportifs. Et c'est peut-être ça qui m'a fait tenir dans mes traversées à la rame, parce que Dieu sait que j'avais mal au bras et que j'étais pas trop j'avais pas trop la carrure pour traverser à la rame, mais que c'était le mental qui m'a
dans
fait arriver.
Et qu'est-ce qu'on se dit là dans la tête dans...
Je ne veux pas abandonner. Ouais, je ne veux pas lâcher. Il est hors de question.
Il est hors de question. Déjà, lui, il a vraiment les gens qui le regardent. Moi, j'avais ma famille, les enfants qui croyaient en moi. Tu te dis, attends, je ne vais pas me payer la honte et lâcher. Et puis, tu penses à tous les sacrifices que tu as fait. Je veux dire, tu en as bavé pour en arriver là sur ce cours. T'as, lui, il a dû s'en taper des heures, des machins, des souffrances et des blessures. Et puis, le jour
où c'est
là.
C'est un homme de la mer. Hein. C'est un homme de la mer.
Ne dites pas ça.
Ah, si, c'est un homme de la mer. Racontez-nous cette concentration que vous évoquez là. Cette concentration, elle vient.
C'est votre genre.
C'est un pêcheur.
Oh, je ne sais pas, mais j'emmène beaucoup de gens naviguer sur mon bateau.
C'est un amoureux de la pêche. Son grand-père, dès qu'il avait 8 ans, était étonné qu'il puisse rester comme ça pendant une heure, un garçon de 8 ans, tout seul devant son bouchon à regarder si les vaguelettes, c'était le vent ou si c'était le poisson.
La mer demande beaucoup de patience, d'abnégation, et je pense que ça demande de la force mentale aussi quand on est face aux tempêtes. Donc je pense que pour certains, ça fait aussi prendre un peu l'air, se remettre les idées au clair. En tous les cas, là, il a fait un beau parcours, je lui souhaite la même chose pour l'année prochaine.
Donc plus 34 791 20 52.
C'est noté.
Il donne le numéro de portable de Rafa Nadal. La question,
non, mais
elle est
simple. On parle de numéro de téléphone, je sais pas si vous avez vu hier
l'incroyable histoire avec Camille Lacour.
Alors moi, nous, on était avec des potes, on s'est demandé si c'était le vrai numéro de Camille Lacour.
Isabelle Langer a appelé tout de suite.
Mais elle a pas le bon numéro de Camille Lacour.
Ce qu'on rappelle, il est interrogé par Nelson Montfort et un de ses amis juste à côté brandit un petit papier avec le numéro de téléphone, un numéro de portable.
Avec écrit Camille Lacour, une flèche vers Camille Lacour et un numéro cœur. En dessous.
Alors pour vous le dire, moi j'ai enregistré la semaine dernière Fort Boyard avec Camille Lacour. Et il est très sympa. Et en effet, avec tous les nageurs, parce qu'on faisait une équipe avec des nageurs et moi, ils se font chambrer du matin au soir. Enfin, c'est super. Ils ont vraiment une vraie équipe, un vrai esprit d'équipe. Et qu'il y avait le petit frère de Laure Manaudou, Florent Manaudou, qui est là, le petit jeune de l'équipe. Alors lui, il peut pas en placer une.
Il se fait chambrer.
Il y a une cohésion d'équipe très, très forte. Et Camille Lacour est quelqu'un de très sympa.
Vous habitez à Marseille en plus, hein.
Voilà, donc on a fait une équipe
formidable.
Marseillaise.
Mais on est à Marseillais, là.
Faudra regarder Fort Boyard, parce que Camille Lacour avec les cafards, les blattes et les machins dans le caleçon, ça valait le coup d'œil.
Message à Isabelle Langer, Maud Fontenoy, le vrai numéro de portable de Camille Lacour.
Juste pour revenir tout de même à la question du débat, Raphaël, je vais y arriver, Nadal, est-il le plus grand joueur de tennis de tous les temps? La question, elle est simple, on fait un tour de table, je me tourne vers Sylvain Charlet pour débuter.
Non, pour l'instant, pour moi, je pense que le plus grand, c'est Roger Federer. Le jour où Nadal aura le même nombre de titres que Federer, ce sera Nadal. Mais pour moi aujourd'hui, Federer et Nadal, je suis pas un grand spécialiste.
Si on s'écarte un peu des titres,
pour moi ils sont top 5.
C'est le plus fort de tous les temps sur terre battue, je pense. C'est un problème de surface.
T'es obligé de prendre les titres en considération. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est un grand s'il n'a pas gagné.
Parfois c'est compliqué de comparer les époques. Là on a un très grand Djoko, Federer.
Non, mais Djoko, Federer a dit attends, Djoko pour l'instant il a gagné 2 titres du Grand Chelem, donc on va attendre un petit peu.
Il y a un problème de surface. Nadal est le plus grand de tous les temps sur terre battue.
Les
ça
grands
fait pas
marins oublier. Gagnaient en multi et en monocoque.
Ah voilà.
Federer gagne sur toutes les surfaces.
Voilà. En partant de ce constat, Nadal il a aussi gagné sur toutes les surfaces.
En tout cas,
c'est le meilleur joueur de tous les temps sur terre battue, mais il n'a pas encore les 16 titres de Federer, il vient juste petitement de rattraper Borg, qui était quand même une légende porteuse d'Auteuil.
Et il est très jeune encore, Nadal.
25 ans à peine.
La finale à Wimbledon, face à Roger, quand il le bat pour la première fois en 5-7.
9-7 au 5e.
Ouais. C'est un des matchs de
avec
légende,
la nuit qui tombe et tout ça. Mais voilà, mais encore, on revient sur cette notion de rivalité extraordinaire.
Ça n'a pas été une finale extraordinaire.
Il y a deux matchs.
La demi-finale entre Djoko et Federer.
Dans l'histoire du tennis, il y a deux matchs de légende. Il y a effectivement le Federer-Nadal de Wimbledon de 2009.
Et il y a Mahut face à
Isner. C'est le plus grand match, le
c'est
plus
le
long match.
Bon.
Et l'autre match référence, c'est effectivement la demi-finale de Roland-Garros qui mérite et qui rentre dans l'histoire. Ce Djoko Federer avec notamment un premier set qui est du ping-pong, c'est incroyable.
Juste dernière remarque avant de basculer sur le football. Coup de chapeau, égal. Quelle humilité.
Il s'est excusé deux fois d'avoir gagné.
C'est tout à fait incroyable.
Ouais, mais alors, ça commence pas à m'énerver, Federer, ça. Parce que moi, à la place de Federer, ça commencerait à m'énerver. À chaque fois, il tape en finale systématiquement. Et l'autre, il dit pardon à chaque fois. C'est insupportable. Mais
vous n'êtes pas suisse, mon cher.
Ah bah ouais, c'est ça le problème.
Non, mais c'est vrai que Roger, pour toutes les personnes qui pensent que l'argent pourrit le sport, là, on a quand même,
c'est des gentlemen, ils ont la classe.
Des vrais gentlemen.
Ouais, ouais, ils ne trichent pas.
Ça me fait penser au sorry good game des Anglais
Ouais, mais c'est classe.
C'est facile de s'excuser quand tu gagnes.
Non, mais à un moment, tu as un point litigieux. L'arbitre français descend de sa chaise et c'est un revers long de ligne de Federer. Et on a un vrai doute. Et là, l'arbitre n'est pas encore arrivé à l'endroit de la marque.
Ouais.
Tu as Rafa. Qui efface la marque et qui donne le point à Roger. Et moi je dis, alors ok, on revient dans le monde des footiques, c'est ça Cyprien Sini.
Non, mais c'est genre,
il faut tricher pour gagner.
Quand on gagne, quoi. Moi je suis grande Federer, ça commence vraiment à m'énerver.
Oui, vous êtes mauvais esprit, vous.
C'est le joueur le plus élégant du monde.
Oui, je suis d'accord.
Le mec le plus sympathique, même si la cesse sont beaux.
Mode Fontenoy.
Mais ses chaussures, il a des super belles chaussures.
Le joueur le plus élégant, Roger Federer.
Non, c'est vrai que c'est des valeurs qu'il faut qu'on mette en avant. Je suis contente que vous en parliez parce que c'est ce qu'il faut que nos jeunes entendent et écoutent. Enfin, je veux dire, c'est ça qu'il faut qu'on véhicule et quand il veut pour un tour en bateau.
D'ailleurs, ils sont très chics. Il y avait Anna Wintour toute la semaine dans les tribunes de Roland Garros.
Fan de Roger. Hein.
La célèbre rédactrice en chef du Vogue américain, Anna Wintour, qu'on a vu dans Le Diable s'habille en Prada.
Oui, derrière madame.
Elle était derrière Mirka Federer pendant toute la semaine.
Ah, les coups de chapeau, en tout cas.
Ça veut dire qu'elle aime ce qui est chic, donc apparemment, elle doit aimer Federer.
Non, j'avais pas compris.
C'est transversal comme émission. On parle de mode, on parle de tout.
Vous avez bien raison. Je vous soutiens. Cyprien Signy, on rappelle, 6e victoire de Rafa Nadal. Il revient de loin parce qu'on se souvient qu'il a eu un début de tournoi particulièrement difficile. On l'a peut-être enterré un peu vite, mais c'est bel et bien le plus costaud sur la terre battue parisienne. 6e titre, 10e grand chelem. Il est parti pour en remporter combien là? Avant de passer au football, Jean-Michel Rascol.
T'es bon sur les chiffres. Alors moi je serais lui, je vais vous dire. Je prends une année sabbatique, je vais à la pêche, je m'éclate, je vais au casino, je fais un tour de bateau avec Maude. Et je leur dis très bien, je vais revenir, je serai 25e, j'aurai perdu des points, c'est pas un problème, je referai mon éducation et je regagnerai plus tard. Mais j'ai l'impression un petit peu qu'il est saturé. À 25 ans, il a fait que ça dans sa vie.
C'est ce qu'il a dit cette semaine en conférence là.
Il a même dit, il a une phrase malheureuse, il a dit j'ai l'impression d'aller à l'usine. Je pense qu'il est jamais rentré dans une usine pour savoir exactement comment ça s'est passé. Mais voilà, il est saturé. Alors il va en gagner certainement, peut-être il en est à 10, le record c'est 16. Bon, il va en gagner beaucoup, mais j'ai envie qu'il respire, qu'il mange des frites.
Mais qu'est-ce qu'il peut faire de sa vie?
Qu'il mange des frites, qu'il kiffe, quoi.
Qu'est-ce qu'il peut faire de sa vie?
Il a enregistré aujourd'hui, je suis sûr.
Bateau, hein, ouais.
Il y a du riz au lait.
Oui, absolument.
Parce qu'il y a des cacahuètes.
Ça, on constate
ma spécialité.
Ah oui, c'est votre spécialité. Et juste un petit mot sur le docu, parce que là, vous êtes tombée amoureuse également lors du documentaire sur ce fameux.
Non,
sur ce cuistot. Ah, si, si, si.
C'est pas vrai, il n'y a que ça qu'on va me ressortir.
Non, mais.
C'est quoi cette histoire?
Ah oui, regardez demain, France 2, à 20h35. Ah, c'est un teaser formidable avec une séquence avec un homme qui manie le couteau.
35, hein.
Ah ouais, qui manie le couteau comme personne et on se rend compte que par contre côté cuisine vous c'est pas top. Hein.
La balance.
Comme il chambre. Mais tu plaisantes, j'ai rien sur mon bateau, je peux pas faire la cuisine, je peux faire du riz au lait.
Du riz,
du lait et de la vanille.
Le riz au lait, c'est la spécialité de Maud Fontenoy.
Chez Mireille Dumas ou non?
Un beau docu, taillé à cap sur les Caraïbes demain.
Non, mais il te dira à la fin comment je l'ai payé pour qu'il raconte tout ça depuis le début.
Mais c'est la vérité en plus, hein, vous verrez demain. Soyez au rendez-vous. Allez, on passe au football si vous le voulez bien. On a assez parlé tennis depuis 15 jours. Bon, on parle football depuis des décennies. Ça, on est d'accord depuis des siècles. Ouais. Ça ne change pas. Ce soir, Ukraine-France, coup d'envoi à 21h, match amical. On rappelle tout de même le match nul face à la Biélorussie, vendredi, 1-1.
Dans tous les sens du terme.
Oui, bah, vous voulez revenir sur ce match peut-être, rapidement, quelques minutes.
À ce moment-là de la soirée, tu as le choix entre Biélorussie-France et Djoko Federer.
Ah bah moi j'ai fait mon choix.
Djoko Federer.
Ouais.
Et tu te dis, bon, professionnellement parlant, il faut quand même que je sache ce qui se passe à Minsk, donc tu zappes. Mais tu as vraiment des difficultés à basculer sur ce match qui était d'une pauvreté. Moi, ce qui m'a énervé, ce sont les propos de Laurent Blanc. C'est-à-dire qu'il nous a fait de la langue de bois en nous disant avant le match, oui, mes joueurs ont du gaz, mes joueurs physiquement sont au top, ils seront tous présents pour cette rencontre. On s'est rendu compte que les mecs n'étaient pas motivés, ce qui peut se comprendre. Et derrière, on nous dit, dans la bouche de Laurent Blanc, ah non, mais vous savez, les joueurs étaient cuits.
Non, mais je crois pas beaucoup à l'excuse physique, moi, ça me plaît pas beaucoup.
Ça m'a vraiment énervé.
Les Italiens, ils ont gagné, tous les gros ont gagné, quasiment à part l'Angleterre, sur ce week-end international. Donc en fait, il y a que les Français et les Anglais qui ont pas gagné. Alors je veux bien que ce soit un peu plus fatigué en France et en Angleterre, mais bon, je veux dire, les Italiens, ils ont gagné sans souci, les Allemands, ils ont gagné sans souci.
C'est quand même Sacco qui a eu le mot juste. Il a dit, je m'emmerde, j'ai l'impression de voir un match de l'ère Domenech.
Et plus grave encore, c'est que pendant le match, on avait Benzema qui, comme Anelka à la Coupe du Monde, revenait dézoné complètement. On avait Ribéry qui s'est installé du côté de Malouda à gauche. Et c'est exactement ce qu'on voyait pendant la Coupe du Monde.
C'était stratégiquement parlant.
C'est ce qu'ils ont dit après, ça me paraît improbable. Alors, attends, même Vicente Lizarazu, notre consultant.
Il a débuté le match à droite.
Ouais, mais Vicente Lizarazu, notre consultant équipe de France, disait quand même après le match, si Malouda était un joueur qui était bon à droite, ça saurait depuis longtemps. Donc je pense pas que Blanc ait voulu faire ça.
Alors attendez, voilà.
Tu peux pas dire ça. Moi, je suis sûr que c'est imposé par Laurent Blanc.
De revenir à l'actualité qui certes est lointaine,
c'est
désormais
quoi, le maillot,
concernant concernant l'équipe de France. Maud Fontenoy, vous avez suivi un petit peu
Allez, sur le foot.
Tous ces débats, toutes ces questions, les histoires de quotas, la fédération.
Détrompez-vous, je crois qu'elle a des choses à dire sur le football.
Mais pas le moins du monde. Je n'y connais rien au foot. Je m'excuse pour tous ceux qui nous écoutent. Non, on peut pas.
Mais un regard extérieur quand même. Un regard différent sur ce monde quand même particulier.
Oui, bah c'est sûr que c'est un monde qui...
Le football occupe quand même une place importante aujourd'hui dans notre société.
Ça passionne du public, ce que c'est déjà pas mal, et ça pousse des gens à se lancer dans le sport, ce qui est encore mieux. Enfin, moi, je trouve que les valeurs du sport, il n'y a rien de tel, et surtout, le sport, c'est aussi le rapport avec la nature, donc c'est un lien avec moi et l'environnement.
Quel formidable discours politique.
Votre Fontenoy habite à Marseille, vous connaissez forcément un peu le foot.
Dans la rue, c'est tout.
C'est pas possible.
Bon, le football, l'intérêt du match de ce soir, il n'y en a pas beaucoup.
Si, justement. Avec ce qui s'est passé, alors je vais te dire, avec ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire ce match minable, il faut le dire, de l'équipe de France,
d'accord,
avec les pseudo-titulaires, tout peut être mis en question avec le match de ce soir.
Il va y avoir des changements.
Écoute-moi, il va y avoir des changements.
Dans quelques mois, il va nous remettre.
Ça compte pour du beurre.
Mais justement, il y a une vraie place à prendre. Il y a des places à prendre depuis le match de ce week-end. Il y a des places à prendre.
Steve
Mandanda, qui va porter le brassard de capitaine, qui est le gardien de but de l'OM, va prendre les buts à la place de Loris, qui soi-disant est irréprochable. Mais alors sur le but biélorusse, Loris, excuse-moi, mais il bouge pas. J'en ai marre depuis des années. Il y a une langue de bois sur Loris. C'est le meilleur. Mandanda ce soir à sa place.
Calmez-vous. La parole à Sylvain.
Tu le sais. Comme moi, là, cet après-midi, on est là, on se dit super. Ce soir, on a un match de France de foot, on est ravis, on est content. On se dit qu'en tant qu'amateur de ballon, on va passer une belle soirée. Mais tu le sais.
Je préfère aller faire un tour de bateau avec Maud Fontenoy. Hein,
tu vas voir mon raisonnement. On va y venir.
Moi, je travaille parce que
mon film, c'est demain. Tu arrives. Profitez-en ce soir.
Ce qui est terrible, c'est que ce soir, au final, on aura droit à un match amical de l'équipe de France. Et ça veut dire quoi, un match amical de l'équipe de France ? C'est un match sans intérêt. Le problème, c'est que tu vas avoir des joueurs sur le terrain, bien entendu, qui ont des choses à montrer, mais qui ne jouent jamais ensemble, à part là, pendant quelques jours, lors d'un rassemblement de l'équipe de France. Et moi, encore une fois, je ne m'attends pas à des miracles. J'espère que je me trompe, mais pour moi, le dernier grand match de l'équipe de France, le dernier match où on a vibré, c'est septembre 2006.
Ton premier vélo ?
Ouais, exactement. J'ai enlevé les deux roues, tu sais. C'est septembre 2006, c'est le match face à l'Italie. C'est la revanche du mondial. Là, dernièrement, on a eu le Brésil, mais tu peux pas juger parce que c'est pas le vrai Brésil.
C'est comme
Jean-Michel Rascol.
C'est les Ukrainiennes dans les tribunes, c'est tout.
Jean-Michel.
Non, vous débordez.
On parle ballon là dans cette émission. Non, mais on parle ballon. Ils sont habillés comme des matelots. Et en plus, ils savent pas nager.
D'ailleurs, ce maillot,
c'est un gros coup de com. Le sponsor a réussi son coup.
Ouais, Maud Fontenoy, la marinoise, c'est quand même pas mal. Moi, je le trouve pas mal.
Moi, j'adore. Bah non, mais ça, je l'ai vu. Merci de m'aider. Mec, il me souffle les réponses, tu sais. Non, moi, j'ai trouvé ça super joli. Et encore, je fais des efforts pour pas la porter tous les jours, moi, parce que ça fait un peu cliché. Mais chez eux, je trouve ça pas mal.
Ouais, moi aussi, je trouve ça assez sympa.
Tu vois une marinière, tu penses au bleu.
Bien sûr.
Juste pour nos auditeurs.
Vive l'homme du Picardie.
Ah ouais. Pour nos auditeurs, là, j'ai pas ce regard désabusé de Sylvain Charlet, incroyable, sur ce match de l'équipe de France. Attendez, il va y avoir des gars comme Gamero qui vont jouer.
Commencer, ça va, tu nous l'as fait.
Mais non, mais je trouve qu'il a de l'intérêt. D'habitude, t'as 11 titulaires, les autres ils joueront pas. Là, il y a des places à prendre, les types ils ont une place à jouer.
Mais vous savez très bien que quand les autres vont revenir au top de leur forme, ils vont tous déménager.
Ribéry, c'est pas un problème de top de sa forme. Ribéry, ça fait 3 ans qu'il est mauvais.
Quelle place à prendre ? Quelle place à prendre ?
Ribéry, par exemple. Place en suspens, je suis désolé, il est mauvais en ce moment.
Mais à part ça.
Place en suspens. Devant Benzema.
Touchable Benzema.
S'il commence à dézoner comme ça, t'as Gamero, s'il commence à confirmer
l'année prochaine,
il aura une place à prendre.
Oui.
Bon, bon, on fait pas de débat.
Non, on n'est pas d'accord, c'est là le débat.
Eh oui.
Bon, allez.
En tout cas, moi, je regarderai. En plus, je travaille, je suis obligé.
Vous en voyez 21h ce soir, Ukraine-France, bien sûr, on va suivre. On rappelle le match également, hein, derrière, face
écouter.
À la Pologne.
Évidemment.
On va bon. Écouter sur RTL.
Oui, on va écouter, bien sûr, sur
avec
sur
Michel Telisarazou, il faut le rappeler avant et après le match.
Donc, bien c'est pas l'émission, sûr. C'est 20h minuit.
20h
même jouer pendant, parce qu'au moins, comme ça, il y aurait du jeu.
Exactement. Vous savez quoi? Il nous reste 10 minutes. Et là, je me tourne vers, ben, vers mon invité, bien sûr, Maud Fontenoy.
Attention,
nos spécialistes. On va essayer de pointer du doigt. Je ne sais pas si vous avez été.
Ça sent le sujet de fond. Non, ça sent le sujet de fond.
Non, mais est-ce qu'il y a un sujet qui vous a tout particulièrement, je ne sais pas, attiré lors de ce week-end ou de la semaine dernière que vous souhaitez développer davantage? Ça, c'est la question piège. Je sais. Vous savez quoi? Je pense à quelque chose parce que j'ai reçu dans ce même café des sports.
Aidez-moi, il y
a quelques jours, les frères Perron pour la Coupe de l'Amérique.
Ouais.
Que personne ne suit en France, on est bien d'accord.
Je sais pas, je me prononcerai pas, vas-y.
Non, c'est une vraie compétition, ça, par exemple, la Coupe de l'Amérique, parce qu'on a eu un vrai débat.
Oui,
c'est une des plus vieilles.
Mais ça fait rêver tout le monde.
Ça fait rêver personne.
Si, quand même, ça fait rêver. Ça s'est beaucoup suivi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de médias, enfin, pas de médias, en tout cas, de sponsors qui suivent. Et Dieu sait que ça représente des montants assez astronomiques. Et pourtant, ils ont leur retour en investissement. Donc, les médias doivent suivre également.
Parce qu'on est très loin, là, du romantisme, des courses au large, avec l'idée du marin qui part en mer tout seul et qui est pas sûr de revenir.
Pas, le Baron Bic, c'était formidable. Le Baron Bic.
Le Baron Bic,
il s'entraînait dans la rade de Marseille d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
Bah oui, c'est vrai, évidemment, c'est vrai.
C'est vrai.
La plus belle rade du monde.
Attends, alors,
non, mais attends, sur la Coupe d'Amérique, je peux te faire 10 minutes.
Je rappelle un jour à Marseille. Lorsque le défi suisse a cherché.
Je vous demande de vous arrêter.
Un endroit pour lancer le prochain défi, ils sont venus visiter justement le port de Marseille.
Marseille
est en concurrence avec les deux Audi A8 depuis Genève et ils sont partis à pied visiter. Ils sont revenus, il n'y avait plus d'Audi.
Et en plus, c'était pendant la grève des poubelles. Non, mais c'est vrai.
Les mecs d'Alinghi sont venus, il n'y avait plus d'Audi.
Ça a été terrible.
Ça a été un drame pour la ville de Marseille et pour la France en général, parce qu'au même titre que la Ryder Cup, qui est une compétition de golf extraordinaire
qu'on a décroché
et qu'on a enfin décroché, et c'est formidable, ça va être extraordinaire. La Coupe de l'Amérique, c'est la même chose en bateau, si tu veux. Et le problème, c'est que cette compétition extraordinaire qui est la Coupe de l'Amérique,
c'est un bon sujet.
Non, mais Marseille était en concurrence avec Valence et t'avais vraiment les deux pendant. Et quand tu regardes juste d'un point de vue vent, rade, mer, ce que les Suisses voulaient, c'était que ça soit accessible à un maximum de public. Et pour ceux qui connaissent Marseille, t'as une corniche en fait très très longue avec la rade de Marseille.
7, c'était formidable.
Non, mais ils auraient pu mettre des tribunes et tout le monde aurait pu voir les bateaux parce que sinon ça se passe au large, tu vois rien.
Ouais.
Ça aurait été, c'était le meilleur site. On a perdu parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement. Parce que Valence, il y avait le roi d'Espagne derrière qui a allongé, faut le dire. Et puis en plus, t'as eu, effectivement, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire qu'ils sont venus, c'était en pleine grève des poubelles, t'avais des rats partout à Marseille. Et ils se sont fait piquer leur voiture avec leur téléphone portable dedans en même temps. Faut être suisse pour laisser son portable en évidence dans la voiture.
Au-delà de ça, c'est un problème de culture sportive. En France, on ne s'intéresse au-delà du foot qu'aux sportifs qui gagnent. Et les seules fois où on s'est intéressé à la Coupe de l'Amérique, c'est parce qu'un bateau français était dans les meilleurs bateaux de la compétition. Sinon, aujourd'hui, on n'en parle pas.
Et on n'arrive pas à être meilleur parce qu'on n'a pas les mêmes budgets. On a des budgets divisés par deux ou par trois par rapport aux autres équipes. Donc, on ne pourra pas gagner de toute façon. C'est une question d'argent, la Coupe de l'Amérique.
Ouais, attention, il y a eu un changement
du monocoque en monocoque. Ça n'a pas un peu dénaturé l'histoire et la légende de la Coupe de l'Amérique?
Ça, je ne sais pas. Ça, c'est les organisateurs qui voient.
Alors, selon les frères Perron,
non, mais ça implique quelle différence? Parce que moi, je n'y connais pas grand-chose. En termes de stratégie, en termes de...
En gros, nous, en France, en monocoque, on a 30 ans d'avance sur nos adversaires. Donc, il y a eu l'ouverture, un changement de règlement qui permet désormais donc, aux monocoques de participer à la Coupe de l'Amérique. C'est la raison pour laquelle les frères Perron, hop, s'engouffrent dans la brèche. Parce que là, il y a une vraie possibilité de victoire. Et qui dit possibilité de victoire,
faut pas penser que les autres,
également,
c'est des pompes à
roulettes, apparemment, ce sont les favoris. Hein. Qui dit possibilité de victoire, dit également organisation de la Coupe de l'Amérique. Ouais. 4 ans plus tard en France. Et là, c'est important.
Non, mais juste un truc quand même, c'est que les Suisses à l'Inghi.
Maud Fontenoy s'en fout complètement.
Mais non,
elle écoute la bonne parole de Cyprien Sidi.
C'est des sujets qui me tiennent à cœur. C'est la Ryder Cup, la Coupe d'Amérique, pour moi, c'est
deux complètement différents sports.
Ouais. Et si tu veux, je trouve qu'à l'Inghi, a complètement.
Découvert la semaine dernière la Ryder Cup, c'est extraordinaire.
Les Suisses.
C'est un grand golfeur, là, tu fais une erreur.
Les Suisses ont complètement dénaturé cette Coupe de l'Amérique. C'est-à-dire qu'Alinghi, quand ils ont gagné, c'est le gagnant qui choisit là où se déroulera la prochaine compétition.
Oui.
C'est une fois tous les 4 ans.
D'où la visite de Marseille.
Voilà. Et donc les Suisses, Alinghi, ont gagné. Donc déjà, d'où un Suisse, il gagne une coupe sur la mer. Je rappelle qu'il n'y a pas la mer en Suisse pour ceux qui sont mauvais en géographie.
Et le lac Léman.
Bon, ça ne les empêche pas, voilà. Donc ils ont gagné cette Coupe d'Amérique. Ils ont cherché un lieu. Et ensuite, pour rentabiliser au maximum cette compétition, ils ont décidé de faire des coupes Louis Vuitton et des challenges tous les 2 ans et tous les ans. Et c'est de plus en plus compliqué. Et du coup, ça devient impossible à suivre.
Puis ça fait des partenaires en main pour Maud Fontenot.
Alors qu'avant, c'était une fois tous les 4 ans. C'était
Challengers, les Defenders.
Alors, on comprend plus rien. Tout,
bon, s'y bah perd. Écoutez, on suivra ça. Bon,
et je joue au golf depuis que j'ai 5 ans, Jean-Michel Rascol.
Non, mais c'est vrai qu'on est.
Je précise,
on est. Tout à l'heure, je veux juste rebondir sur vos propos, Maud Fontenoy, parce que j'évoquais un petit peu ce côté romantique de la voile, de cette idée de partir et du marin qui n'est pas sûr de revenir. Même si maintenant.
Attention, Manu, pour trop de poésie.
Et pour un mec qui vomit dès qu'il y a un peu de houle, c'est joli.
Non,
hein.
J'ai pas le mal de mer. Contrairement à vous.
Ah, ça y est, il balance encore.
Non, c'est vrai que vous avez mal de mer.
C'est vrai, j'ai le mal de mer toujours au début. Toujours.
Ouais,
eh oui, comme quoi, oui, tout est possible. Comment j'ai toujours mal de mer au début. Bah, on fait, voilà.
Avec.
Et on fait avec. Exactement.
On nettoie surtout.
Ouais. On nettoie derrière. Et après, au bout de 5-6 jours, en fait, ça passe. Après, on peut vous secouer dans tous les sens.
En fait,
c'est une histoire d'oreille interne qui fait que certaines personnes sont plus, plus adaptables à ce genre de problèmes. Ceux qui ont notamment le mal de voiture ou le mal des avions vont avoir plus facilement mal de mer. Et après, on s'adapte. Alors, certains mettent des patchs qui sont assez efficaces, mais qui peuvent créer des somnolences, tout ça. Donc, moi, je n'utilise jamais ça quand je suis en solitaire pour être sûre d'être aux aguets. Voilà.
Est-ce que vous avez le mal de terre aussi? Quand vous revenez de longues traversées.
Là, en ce moment, ici, par exemple, parlant de football et de trucs, ouais, un peu, non,
c'est très désagréable, le mal de terre, quand même. Parce que quand on revient d'un long moment en bateau, on a
l'impression que la terre bouge. Bah, ouais. on s'adapte, en fait. C'est vrai que le plus difficile, quand on revient, c'est de réapprendre à dormir. Puisque quand on est sur le bateau à rame, on dort par tranche de 20 minutes. Parce qu'au bout de 20 minutes, il n'y a plus d'oxygène à l'intérieur du... On a un petit espace, un petit peu cercueil dans lequel on va se recroqueviller pour dormir. Et quand il est bien fermé, bien, au bout de 20 minutes, il n'y a plus d'oxygène. Donc, on doit se réveiller toutes les 20 minutes pour être sûr que le bateau ne doit pas se remplir d'eau. Si capot était ouvert. Et sur le bateau à voile, on dort par tranche d'une heure et demie. Donc du coup, quand on revient en fait à terre après des voyages qui ont duré 4-5 mois, eh bien, on a du mal à se réacclimater au sommeil. Donc déjà, on se réveille tout le temps et on dort en boule. On se dort complètement recroquevillé pour éviter les coups du bateau qui va taper contre les vagues ou du bateau à rame qui peut se retourner. Donc quand on revient, on va mettre plusieurs mois à redormir dans un lit sec et chaud et à dormir une seule nuit.
Est-ce que c'est violent, c'est une sieste pour l'organisme?
Est-ce que c'est violent pour
d'enchaîner des nuits de 20 minutes?
Disons que on va zapper la zone de sommeil paradoxal, c'est-à-dire qu'on ne va plus du tout rêver, on va tomber dans le sommeil profond très très vite. Et après, c'est un travail à faire sur le mental, c'est-à-dire d'essayer de tout oublier pour arriver à dormir, parce que vous êtes aussi angoissé, c'est-à-dire que vous devez dormir même quand le bateau est dans 10-12 mètres de creux, vous devez dormir quand même. Donc en fait, vous devez faire le vide pour arriver à vous endormir, sachant que vous savez que vous allez devoir vous réveiller très très vite. Vous imaginez le caractère, ça vous fait peur d'un coup là. Non, mais c'est vrai qu'on s'adapte et on s'habitue. Et c'est vrai que je me suis rendu compte au cours de mes aventures. Et donc, c'est pour ça que Rafael Nadal ferait peut-être d'autres succès, parce qu'on s'habitue de plus en plus, on prend le bon rythme. Et c'est vrai que mes premières traversées étaient peut-être plus douloureuses que les autres. C'est-à-dire que mon corps s'était habitué à dormir par phase comme ça, à s'habituer à s'adapter, à vivre comme un animal, à ramper dans son bateau et à avoir très très peu de confort.
Question stupide peut-être, il y a du dopage justement dans ce milieu, puisque on dort très peu, c'est difficile, ça dure plusieurs mois.
Je sais que certains prennent des trucs juste pour pas dormir en fait, des excitants. Ceux qui font des courses très très courtes, vous savez, les traversées de l'Atlantique ou tout ça, mais bon, je peux pas parler pour d'autres, mais je sais que je ne pense pas que ce soit considéré comme du dopage, mais je sais que certains doivent prendre des choses pour justement rester en éveil parce que ils vont être dans des courses très très courtes. Quand on part sur des voyages,
les médecins contrôleurs, ils ont du mal à venir quand même.
Enfin, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment de contrôle.
Avant ou après une course aussi courte d'une semaine, tu pourrais envisager des contrôles.
Je ne sais pas si c'est considéré comme du dopage. En tous les cas, quand on part comme moi dans des aventures où déjà il n'y a pas un combat contre quelqu'un d'autre, puisqu'on part en solitaire, c'est l'histoire de réaliser une première, et qu'on part 5 mois, on doit soi-même gérer son rythme de sommeil, gérer son corps. Enfin, on perd déjà 10 kilos parce qu'on se nourrit moins bien, parce qu'on mange de la nourriture lyophilisée, parce qu'on ne peut pas toujours faire du riz au lait parce que le bateau bouge beaucoup. On vit avec la météo, avec le rythme qui nous est imposé.
Est-ce qu'on finit à se parler à soi-même, comme dans le film avec Tom Hanks?
Mais vraiment, c'est vrai ça. C'est-à-dire que j'avais pas un ballon de rugby ou je sais pas quoi.
Ouais.
Mais on se parle à soi-même parce que finalement, on se rend compte qu'on est des êtres grégaires, qu'on a besoin des autres, et probablement que les auditeurs, que ceux qui regardent les matchs soutiennent et aident. Et c'est vrai que quand on est tout seul, on n'a personne pour vous dire vas-y, continue, n'aie pas peur, ça n'est pas grave. Donc on se parle à soi-même en se disant allez. Vas-y Maud, vas-y, tu vas y arriver.
Allez, c'est pas franchement une performance sportive, c'est davantage pour faire évoluer les consciences. Rendez-vous demain, bien sûr, ce docu à découvrir sur France 2, Taïa Cap sur les Caraïbes à 20h35. Le rendez-vous est pris. Merci Maud Fontenoy de nous avoir accompagnés tout au long de ce Café des Sports. Ce fut un plaisir. Vous revenez quand vous le souhaitez, bien sûr, dans notre café. Je remercie Cyprien Signy.
Merci.
Je remercie Sylvain Charlet. Je remercie également Jean-Michel Rascol. Et puis on attend le Riolet, évidemment, hein, à bord du bateau avec
quand
vous.
Quand vous voulez.
Du côté de Marseille. Allez, 14h passé de 29 minutes, c'est la fin de ce Café des Sports. Rendez-vous demain, bien sûr, pour un nouveau Café des Sports. Passez une belle après-midi. Bye bye. Restez connectés sur RTL Équipe.
Le Café des Sports, le rendez-vous débat de la rédaction de RTL Équipe.